Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. En Ituri, grève des chauffeurs étrangers qui protestent contre l'assassinat de l'un des leurs de nationalité somalienne par un homme en uniforme. Conséquence, le prix du carburant à la pompe connaît une flambée à Bunia depuis hier. Le gouvernement congolais, par l'entremise de sa première ministre, salue les sanctions imposées le 2 mars dernier par les départements du Trésor américain contre les forces de défense rwandaises et plusieurs de leurs hauts responsables. Pour mettre fin à la criminalité faunique, l'ICCN a sensibilisé et vulgarisé la loi relative à la conservation de la nature et la lutte contre la criminalité faunique aux magistrats et au personnel judiciaire. Pour en parler, Radio Kapi reçoit Radar Nisuli, directeur chef des sites du parc national de la Lomami. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. En Ituri, plus de 200 véhicules transportant du carburant sont bloqués depuis 3 jours au poste douanier d'Anzida, dans le territoire de Mahagi, à 165 km au nord-est de Bunia. En cause, une grève déclenchée par des chauffeurs étrangers. Ces derniers protestent contre l'assassinat il y a quelques jours d'un de leurs des nationalités somaliennes par un homme en uniforme sur le tronçon Nyoka Djougou sur la route nationale numéro 27. Conséquence, le prix du carburant à la pompe connaît une flambée à Bunia depuis hier. Martial Kizabiamungu.
Ces chauffeurs étrangers, à majorité de Kenyans et Somaliens, dénoncent l'insécurité dont ils sont victimes de la part des hommes armés sur la route nationale numéro 27, tronçon plus précisément entre Mahagi et Bunia. Ils citent à titre d'exemple l'assassinat d'un de leurs il y a quelques jours par des hommes en uniforme sur l'axe Nyoka Njogu, mais aussi des tracasseries d'hommes en armes caractérisées par des demandes de rations sur cette route. L'un de leurs représentants. L'armée, c'est notre sécurité. On n'y refuse pas. Mais cette sécurité doit être bien assurée. On stoppe les véhicules pour exiger de l'argent. En cas de résistance, on brandit l'arme sur toi, des fois en état d'ivresse. L'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanola, qui les a rencontrés vendredi, rassure le gréviste de l'engagement des pouvoirs publics à assurer leur sécurité. Entre-temps, les conséquences de cette situation se font déjà sentir dans la ville de Bunia, où les prix du carburant à la pompe est monté en flèche ces dernières 48 heures. Ainsi, un litre d'essence se négocie actuellement à 4000 francs congolais, voire 5000 francs contre 3000 francs il y a 3 jours. Bunia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, le gouvernement central poursuit sa politique de désenclavement de la province du Kwilu. Après Gungu, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a lancé mercredi les travaux de réhabilitation de la route reliant les villages Petit Kassai à Bulungu, longue de 60 km. Ces travaux, financés par le programme sino-congolais et supervisés par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, concernent également la bretelle de 27 km qui relie la RN19 à Vanga. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
C'est à bord d'un bulldozer de la firme chinoise Sinohydro 14 que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a donné les coups d'envoi symboliques des travaux de construction des 87 km de route dans les territoires de Bulungu au niveau du village Petit Kassai. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué des ITP, est revenu sur les contours techniques de ces projets. Nikon Zaounzaou.
Concrètement, le projet que nous lançons aujourd'hui comprend les désengagements, les doyens de l'emprise, les travaux de déracinement, écapage, remblai, réglage et compactage sur un longueur total de 87 km.
S'adressant à la population, le ministre des Infrastructures a réaffirmé la détermination du gouvernement à mener ce projet à son terme avec l'appui de toutes les parties prenantes. Grâce au financement du programme sino-congolais, l'entreprise Sisk SA avec son sous-traitant Sinohydro 14 procédera dans un premier temps à l'ouverture complète du tracé. La seconde phase consistera au revêtement intégral de l'axe. Une fois achevé, ces travaux permettront le désenclavement de cette partie du pays riche en potentialités agricoles agricole, économique et sociale. Cette cérémonie a rassemblé de nombreux députés nationaux, provinciaux et sénateurs élus du Kwilu.
Restons dans la capitale. Les habitants de la commune de Lingwala longeant la direction des Amoureux jusqu'à Mouchi, plus précisément les avenues Kabinda, Akiti, Libenge et Itaga, se plaignent de l'état délabré et insalubre de leurs caniveaux qui sont bouchés par les immondices. Cela ne permet pas le bon drainage d'eau. Ces avenues sont invivables car les mauvaises odeurs se dégagent de partout. Sephora Mpaka a fait un tour dans ces quartiers. Elle nous décrit la situation.
Depuis un certain temps, les résidents du quartier 30 juin dans la commune de Lingwala sont exposés à des risques de plusieurs maladies. Les caniveaux obstrués par les immondices et du sable n'arrivent pas à dégager facilement les eaux de pluie qui stagnent continuellement, même pendant la saison sèche. Les manques de curage réguliers des caniveaux occasionnent cette situation. Exaucé, un habitant de ce quartier explique.
Il y a trop des inondices dans les caniveaux, ce qui bloque le passage d'eau. Il y a des maladies déjà qui se créent. Avant, ils créaient quand même tout ce qui est comme saleté en fait, dans nos caniveaux et ils les font plus.
Maman Gisèle, habitant sur l'avenue Akéti, enrichit que la construction et la réhabilitation de routes sont des bonnes initiatives. Les petits caniveaux construits avant ne tiennent plus. Lorsqu'il pleut, les eaux reviennent dans nos maisons et même avec la construction de nouvelles routes, ça ne résout pas le problème. Un jour, il y arrivera que la commune de Lingwala disparaisse avec plusieurs personnes mortes. Face à cette insalubrité, les habitants de ces quartiers demandent aux autorités de l'hôtel de ville de dépêcher les agents de l'OVD pour curer ces caniveaux.
Direction province du Tanganyika, renforcer la sécurité de la navigation et améliorer les conditions de transport sur les lacs Tanganyika, c'est l'objectif de la campagne de balisage. Elle a été lancée ce vendredi à Kalemie par la régie des voies fluviales RVF. Paul Munanga nous en parle.
Le ministre provincial de transport du Tanganyika a lancé cette opération de balisage du lac Tanganyika. Elle partira de Kalundu à Uvira en passant par Baraka et Moba, soit une distance de plus de 450 km. Le commissaire lacustre de Kalemie explique l'importance des balises sur le lac Tanganyika. Jean Kiato.
Les avantages de la balise, c'est pour aviser aux navigateurs. Il y a les signaux qui nous indiquent le danger. Il y a les signaux qui nous indiquent la passe n'est pas accessible. Il y a les signaux qui nous indiquent la passe est libre, donc la signalisation est avantageuse aux navigateurs dans les cadres de danger et de prévenir aussi les accidents.
Nous avons des sortes de signaux. Nous avons les signaux fixes et les signaux mobiles.
Ceux qui sont fixes, ça s'installe à la rive.
Le commissaire lacustre précise que les ports de Kalemie et de Kalundu à Uvira ont des balises et des bouées. Cependant, les ports de Moba, Baraka ou Kabimba ne sont pas encore balisés. Le directeur de la RVF, BF supérieur, Henri Nzila, souligne que le balisage des cours d'eau en RDC est un moyen de désenclaver les provinces et de promouvoir une meilleure connectivité. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Je le disais en titre, le gouvernement congolais salue les sanctions imposées le 2 mars dernier par le département du Trésor américain contre les forces de défense rwandaises et plusieurs de leurs hauts responsables. Par la voix de sa première ministre qui s'exprimait lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, Judith Suminois affirme que ces sanctions reconnaissent l'implication directe et multiforme de l'armée rwandaise aux côtés du M23 engagé dans des opérations militaires sur les territoires congolais. La chef du gouvernement estime par ailleurs que cette décision intervient dans un contexte où la RDC intensifie ses efforts diplomatiques pour mobiliser la communauté internationale autour du respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Dans le territoire de Mambasa, en Ituri, pendant ces temps, des activistes des droits de l'homme alertent sur la gestation d'un nouveau groupe armé dénommé Mouvement Populaire du Congo qui serait dirigé par un certain Katembo Kiaviro. Selon Rams Maligidogo, défenseur des droits de l'homme qui revient de la région, depuis 3 jours, ce dernier aurait installé son état-major à Camp Tomate où il recruterait des jeunes afin de renforcer ses rangs. Pour cet acteur de la société civile, cette situation constitue une mauvaise nouvelle pour les habitants de la région. Il craint en effet que ces hommes armés n'érigent rapidement des barrières sur les routes pour extorquer de l'argent et vivre à la population. Jean-Claude Lokidile.
D'après les informations recueillies, ce groupe aurait établi son bastion au camp Tomate depuis mardi dernier, près de 10 km du centre des négoces de Biakato. Cette présence inquiète fortement les habitants, déjà confrontés aux exactions et autres tracasseries commises par une mosaïque d'autres groupes armés se réclamant des Wazalendo, rapporte Rams Malikidogu après un séjour dans la zone. Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire confirme que Katembo Kiaviro est un ancien milicien et a autrefois servi dans un groupe armé Mai Mai. Jean-Baptiste Mouniampazi précise qu'il avait été arrêté il y a 2 ans à Makumo avant d'être transféré à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa où il a été finalement relâché.
Il est revenu ici il n'y a pas 6 mois. On me les a présentés aujourd'hui. S'il prend les armes, il devient bandit armé. Mais il n'est pas encore groupe armé parce que le groupe n'est pas encore identifié. S'il commence là, nous devons nous battre pour le savoir.
Alors que les habitants de Mambasa vivent déjà sous la menace de plusieurs groupes armés, dont des rebelles des ADF, la naissance de cette milice fait craindre une recrudescence des tracasseries dont sont régulièrement victimes les populations rurales. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 6 squelettes humains ont été découverts vendredi dans les collines du village de Sengelele, situé entre les territoires de Beni et de Lubero. La société civile plaide pour le renforcement des mesures sécuritaires dans cette région agricole, où les menaces des groupes armés, notamment les ADF, sont signalées. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Selon la société civile dans le groupement de Bassoa Madiwe, c'est depuis le 24 février 2026 qu'une dizaine d'agriculteurs de la localité de Cantine étaient portés disparus alors qu'ils avaient quitté leur village pour se rendre dans leurs champs situés dans les collines de Sengelele. Cette structure citoyenne indique que les 6 squelettes humains découverts ce vendredi sont ceux des agriculteurs. Elle accuse les rebelles des ADF, très actifs dans cette zone agricole et minière, d'être les auteurs de ce dernier massacre. Ce vendredi, les membres des familles des victimes, accompagnés par les éléments des FRDC basés à Cantine, se sont rendus sur les lieux du drame pour procéder aux inhumations des restes des leurs. Cette découverte macabre intervient après plusieurs incursions sanglantes de ces rebelles dans cette région où les recherches se poursuivent encore pour retrouver les autres agriculteurs. Face à cette sécurité, la société civile appelle les agriculteurs à plus de vigilance. Elle exhorte également la population à informer immédiatement les services de sécurité de tout mouvement suspect dans la zone. Des sources sécuritaires dans la région qui confirment cette information indiquent que des mesures sont prises pour protéger les agriculteurs dans cette région contre toute menace des groupes armés. Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, l'horizon judiciaire s'assombrit pour le chef de l'exécutif provincial. Le bureau de l'Assemblée provinciale a donné son feu vert au procureur général près la Cour de cassation pour enquêter sur Paulin Lindongolia Lebabonga. Les précisions avec Jacques Moukonkolé.
Le verrou est levé. Vendredi, le bureau de l'Assemblée provinciale a répondu favorablement au réquisitoire de la justice. Sur les 5 membres que compte ce bureau, 3 étaient présents. Ils ont tous voté pour l'ouverture d'une instruction judiciaire contre le gouverneur Paulin Lindongolia. Pour le président de l'organe délibérant, le docteur Mathéus Kangalondimo, il ne s'agit pas encore d'un procès, mais d'une étape technique. La justice a désormais les mains libres pour mener ses enquêtes, fouiller les dossiers et établir les faits. Prudence toutefois dans les couloirs de l'hémicycle. Le président rappelle que le gouverneur bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Paulin Lindongolia aura donc tous les loisirs de présenter ses moyens de défense devant les magistrats. Quelle est la suite? Tout dépendra des conclusions du parquet. Si les preuves sont suffisantes, le procureur général devra revenir une seconde fois devant les députés provinciaux. Cette fois, ce ne sera plus une simple enquête, mais pour solliciter une autorisation formelle de poursuite. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, avant d'aller plus loin, plus de 100 travailleurs de la société minière de Bakwanga étaient ce vendredi en sit-in à l'entrée principale du gouvernorat des provinces. D'après le bureau syndical national, ces travailleurs réclament 8 mois d'arriéré des salaires et la relance effective de leur entreprise minière. Malgré l'intervention du vice-gouverneur, ces agents sont restés sur les lieux du dit sit-in jusqu'à tard dans la soirée. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plusieurs travailleurs de la société minière de Bakwangabiba sont restés toute la journée de vendredi devant l'entrée principale du gouvernorat des provinces. Certains travailleurs étaient accompagnés de leurs femmes et des enfants avec des calicots où on pouvait lire, je cite, « Pourquoi sommes-nous abandonnés par le gouvernement? Le salaire est un droit. Notre gouvernement est à la base de notre impayement. » Fin de citation. Cela ne suffit pas. Un mémorandum a été lu devant le vice-gouverneur par le président du bureau syndical national, Febata Ntumba.
Ils sont là avec l'objectif de trouver une réponse favorable à leur desiderata, la réclamation de 8 mois d'arriéré des salaires, hormis les 240 de mois qui sont mis en frigo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand nous vous parlons ici, Excellence, rien n'avance.
Augustin Kayembe, vice-gouverneur, a promis de transmettre ce mémorandum à qui de droit.
Les salaires ont un caractère social, mais aussi nutritionnel. Ça me fait aussi mal. En tant qu'autorité provinciale, je vais faire ce qui est de mon devoir, remonter votre mémo que j'ai déjà entre mes mains. La province fera sa part.
Malgré cela, les travailleurs de la MIBA ont poursuivi leur sit-in jusqu'au soir. Deux ont piqué des crises d'hypoglycémie pour n'avoir rien mangé toute la journée. Esther Dalafina Mbouchimay, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Madagascar, un nouveau mandat d'arrêt international, le troisième, a été émis contre l'homme d'affaires Mami Ravatomanga, considéré comme le parrain du régime déchu d'Andry Rajoelina. C'est ce qu'a annoncé le pôle anticorruption jeudi 5 mars 2026 au soir. Le mania actuellement détenu à Maurice est cette fois-ci recherché pour des faits de corruption dans le secteur minier. Il a, selon la justice, détourné plusieurs millions de dollars.
L'invité.
Notre invité, c'est Radar Nishuli, directeur chef des sites du parc national de la Lomami. Pour mettre fin à la criminalité faunique, l'ICCN a sensibilisé et vulgarisé la loi relative à la conservation de la nature et la lutte contre la criminalité faunique aux magistrats et au personnel judiciaire. L'objectif est, à part les renforcer leur capacité de suivi des infractions sur la criminalité faunique, mais aussi clarifier la collaboration qui doit exister entre les tribunaux de l'ICCN dans la chaîne de l'application de la loi. Radar Nishuli, notre invité, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Radar Nishuli, bonjour.
Oui, bonjour madame la journaliste.
Aujourd'hui, vous avez pu réussir à sensibiliser les magistrats et le personnel judiciaire sur l'application de la loi relative à la conservation de la nature et la lutte contre la criminalité faunique. Pour aboutir à quoi?
L'objectif primordial, nous voulons améliorer nos relations avec l'organe judiciaire pour plusieurs raisons. D'abord, un de nos éléments sont des OPJ. Ils traitent des dossiers aussi des braconniers, mais qui les ramène au niveau du ministère public. La deuxième raison, c'est que tous nos dossiers sont traités là-bas. Nous devons nous assurer que les dossiers sont bien traités et qu'ils sont suivis jusqu'à l'aboutissement de ces dossiers. J'ai voulu organiser vraiment cet atelier pour qu'on se parle avec nos alliés, pour qu'on nous demande comment améliorer le suivi et le traitement des dossiers judiciaires, pour essayer de diminuer ou d'éradiquer la criminalité faunique, surtout que mon pays en général, mais aussi la province de Maniema, était déjà considérée comme une plaque tournante de crimes environnementaux, notamment la capture et vente de perroquets, les pointes d'ivoire qui circulent et qui sont gardées dans des maisons de certaines personnes ici, et tant d'autres espèces qui transitent par ici.
À part ça, vous avez aussi vulgarisé cette loi relative à la conservation de la nature. Quel est son contenu?
Et la loi 14 sur la conservation de la nature, c'est une loi qui essaie d'expliquer un peu ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire dans les aires protégées. Et il définit aussi les sanctions et les amendes à payer face à toutes ces sanctions-là. Et nous avons compris aussi que la loi sur la conservation de la nature était une loi qui n'était pas beaucoup connue par nos organes de loi. C'est comme ça que nous avons pensé que multiplier cette loi, leur disponibiliser ça, ça permet quand ils auront des cas de flagrance ou de violation de la loi sur la conservation de la nature, ils peuvent bien se comporter et savoir quelles dispositions prendre vis-à-vis des infractions constatées quant à la violation de cette loi-là.
Est-ce que dans le parc national de la Lomami, y a-t-il des cas de braconnage qui s'observent, bien qu'ils sont enregistrés à tout moment?
Oui, la grande activité qui détruit le parc pour le moment, c'est la chasse. La chasse a quitté les niveaux des substances vers le niveau de commercialisation. Mais ce qui inquiète maintenant, on prend même les espèces vivantes. C'est là où il prend une grande dimension de criminalité faunique, puisque quand on va prendre un perroquet pour l'envoyer en Turquie, tu peux t'imaginer cette chaîne. Donc ça devient un commerce inquiétant qui va risquer de décimer nos ressources naturelles, faire à ce que les enfants de nos enfants puissent un jour confondre un chien à une antilope.
Avec cette série de sensibilisations, pensez-vous que cette relation va permettre maintenant qu'il y ait la remise de l'ordre dans la gestion du parc national de la Lomami?
L'ordre est là, puisqu'il y a la loi. Il y a des agents qui sont commis à faire appliquer cette loi que nous appelons les éco-gardes. Mais l'activité d'aujourd'hui, pour moi, c'est une sensibilisation, mais plus une prévention. À l'allure où vont les choses, si nous ne prenons pas de prévention, la catastrophe nous attend. Cela veut dire que on veut prévenir la catastrophe en essayant de mettre des mesures, mais aussi en essayant de voir comment, en alliés, nous pouvons nous entraider en tant que service de l'État.
Vous les avez sensibilisés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez faire encore de plus pour eux et pour que cette collaboration puisse demeurer?
Ah, une très belle question. La même question que tu me poses, je l'ai posée à mes amis de droit. Qu'est-ce qu'ils me conseillent pour améliorer ma façon de faire? Mais comment ils pensent nous pouvons travailler ensemble? Et ils ont dit, nous devons multiplier ce genre de séances. Ils nous ont demandé de toujours recourir aux cours des tribunaux quand nous avons des cas. Ils nous ont demandé de mettre un mécanisme de suivi des dossiers qu'on dépose. Ils nous ont encore demandé régulièrement qu'on fasse un état des lieux ensemble. Comme ça, ensemble, nous pouvons être en train de dire, écoutez, main dans la main, nous sommes en train de gérer les dossiers en justice.
Rada Nishul, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
C'était donc notre invité Rada Nishuli, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga, et c'est ce qui met fin à cette édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Richard Junior Kamunga, mise en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet www.radioocapi.net.